Et donc nous sommes toujours sur Sortir du patriarcat-capitalisme dans une émission autour du transféminisme matérialiste, donc une approche féministe matérialiste de la transitude. Et donc après avoir un petit peu posé les bases de ce que c'est justement que le transféminisme matérialiste, dans une deuxième partie de cette émission, on va s'attacher plus précisément au débat entre... d'une part, l'approche transféministe matérialiste défendue donc par nos invités, donc Pauline Clochec et Constance Lefebvre, avec d'une part, disons, les différents courants de féminisme anti-trans, et puis, même si c'est évidemment une autre histoire, ce qu'on peut appeler le transféminisme queer, avec lesquels il y a des divergences, tout comme il y a des divergences entre le féminisme queer et le féminisme matérialiste. Donc, est-ce que, même si on en a déjà un petit peu parlé dans la première partie de l'émission, est-ce que on pourrait revenir donc sur les divergences un petit peu fondamentales et théoriques aussi entre donc le transféminisme matérialiste et les féminismes anti-trans, et notamment sur les fondements théoriques, avec des grandes guillemets, des féministes anti-trans pour, dans leur motivation pseudo-théorique pour exclure les femmes trans du féminisme, avec notamment l'idée que les femmes trans, même si... Alors, quand on leur reconnaît le fait qu'elles peuvent effectivement être opprimées et exploitées en tant que femmes, à un moment, ne l'auraient pas été depuis le début de leur vie, donc... etc. Donc, est-ce que vous pourriez répondre justement à ces allégations pseudo-théoriques ?
Ben, alors, sur les fondements théoriques du féminisme anti-trans, je pense, je veux pas être méprisante, hein, mais on part quand même globalement d'une pensée qui est inspirée de la théologie chrétienne, donc notamment la féministe Mary Daly et ensuite son élève. Janice Raymond, mais aussi beaucoup d'autres féministes qu'on peut rattacher à un courant culturaliste qui pense qu'il y aurait une culture féminine naturelle, quelque chose comme ça. Et donc cette théologie chrétienne de Mary Daly, en fait, est une théologie de la sacralité du corps. Donc cette sacralité du corps est totalement incompatible avec les altérations chimiques et chirurgicales qui sont très répandues dans la vie des personnes trans, parce que ce sont des moyens, en fait, pas parce que c'est quelque chose qui nous est tellement imposé, même si c'est la thèse qui est soutenue notamment par Raymond dans l'Empire transsexuel, que le corps médical impose ces transformations sur les personnes trans dans un but de conformation. En cela, elle a raison, hein. Raymond dit quelque chose de vrai lorsqu'elle dit que le corps médical cherche à normaliser les corps trans. Il n'y a pas de souci avec ça. Là où elle se trompe, c'est de dire finalement qu'on forcerait des gens là-dedans, alors que indépendamment du corps médical, en fait, les personnes trans recherchent aussi ces modifications corporelles parce qu'elles leur permettent d'avoir une aisance dans leur vie sociale. Parce que le fait de ne pas être nécessairement, pas systématiquement perçu comme trans, quelque chose qui est psychologiquement pour soi-même, socialement parce que ça fluidifie les interactions avec autrui, c'est quelque chose de très important et sur lequel la médecine peut contribuer. Il se trouve que la médecine y a historiquement et encore aujourd'hui contribué en ayant une approche extrêmement normalisante et en demandant aux personnes trans de, non pas en leur offrant un choix, un accès à des techniques médicales qui seraient sur demande, avec un principe en fait de consentement éclairé, puisque c'est ce qui aujourd'hui devient de plus en plus la norme, espérons-le, mais qui pendant longtemps en fait était soumis à un contrôle très très strict de l'institution médicale qui visait, oui, à normaliser les corps trans. Donc, indépendamment en fait de cette influence de la médecine, hein, indépendamment de ce rapport à la médecine et à l'autorité médicale qui façonne le corps, non pas selon les désirs des personnes, mais selon des normes sociales qui sont interprétées par les médecins, cette possibilité même de changer le corps est rejetée par énormément de ces féministes. Qui donc se retrouve dans une idée de sacralité du corps qui ne devrait pas être touché, qui ne devrait pas être altéré, avec pourtant quelque chose qui est assez qui peut paraître un peu surprenant, en particulier aujourd'hui avec lorsqu'on connaît pas tellement ces évolutions du mouvement féministe, c'est-à-dire que en fait l'accès au corps et la possibilité de modifier son corps, c'est aussi quelque chose qui est historiquement très important, y compris pour les femmes cis. Le contrôle de la reproduction passe aussi au travers de l'accès à des techniques de contrôle de la fertilité, par des stérilets, par des hormones, des pilules contraceptives, par aussi des pilules abortives et éventuellement des modifications, enfin en tout cas des procédures chirurgicales. Donc, et là je ne parle seulement que de fertilité, mais en fait lorsqu'on parle du corps des femmes, en fait le corps des femmes est largement construit, même en dehors de la médecine, au travers d'interventions qui vont façonner le corps de manière à ce qui corresponde à certaines normes. Donc, ce qui va toucher autant les femmes cis que les femmes trans, si on parle par exemple de l'épilation ou même de la voix, même si là c'est moins médical, mais la voix n'est pas quelque chose de naturel en fait. Et on sait bien que... Enfin, on sait bien. Si on s'y intéresse un petit peu, en fait, on découvre vite que la voix est elle-même un produit d'une société et qui est extrêmement genré. Donc tout cela va faire que là où certaines féministes vont apprécier en fait la communauté de vécu entre femmes trans et femmes cis et le fait effectivement qu'on est concerné par toutes ces formes de modification corporelle, d'altération du corps, certaines féministes vont davantage faire un appel à l'artificialité du corps trans, qui vise essentiellement finalement à altériser les trans, à dire qu'elles sont différentes parce que leur corps serait artificiel. Et en cela, elles ne sont pas tellement féministes, parce que c'est un thème qui est extrêmement répandu. La perception sociale, culturelle des personnes trans, indépendamment de toute considération féministe.
Oui, et d'ailleurs, il y a beaucoup dans la fameuse croisade anti-genre du Vatican, etc. Là, le thème de la sacralité du corps est vraiment central. Et finalement, c'est vrai que c'est étonnant de voir des femmes cis qui se revendiquent du féminisme ressortir des arguments qui sont une forme de christianisme sécularisé ou des arguments naturalistes qui finalement valident l'idéologie patriarcale et qui en ça finalement se rapproche énormément finalement de l'idéologie patriarcale mainstream et des réactionnaires, des anti-avortements, etc., etc.
Oui, c'est quelque chose. Alors je saurais pas dire exactement si on trouvait ça antérieurement dans les années 80, 90 où il y a eu pas mal de polémiques transphobes. Mais actuellement, c'est extrêmement marqué. C'est-à-dire que dans les mouvements dits féministes anti-trans actuels, je dis féministes entre guillemets parce que justement, il y a eu une forme de rupture il y a environ 5 ans dans les mouvements anti-trans qui s'est opérée, qui a été d'une part une popularisation de ces idées. C'est-à-dire que là où elles étaient confinées auparavant, elles étaient pratiquement confinées au féminisme radical. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle couramment de TERF, de Trans Exclusionary Radical Feminist, ou féministe radical excluant les trans. Là où auparavant, effectivement, c'était des idées qui étaient vraiment répandues seulement dans un micro-milieu féministe, et en particulier féministe radical, et qui n'étaient pas tellement populaires, il y a eu un tournant il y a environ 5 ans, que j'appelle personnellement le tournant gender critical, qui en fait a été aussi un renommage du mouvement en tant que critique du genre. Voilà, gender critical, critique du genre, et qui est en fait tout à fait une association inattendue, on pourrait dire, pas forcément si on connaît les origines du féminisme anti-trans, mais une association des forces anti-genre catholiques notamment, et chrétiennes en général, une offensive, l'offensive anti-genre est tout à fait consciemment agitée par le Vatican. Hein. Voilà, c'est des choses qui sont financées par l'Église, avec des groupes de pression, des lobbies dans énormément de pays, en Amérique latine, au Canada, aux États-Unis, en France, avec la Manif pour tous, en Espagne et au Royaume-Uni, avec notamment Citizen Go, des grosses organisations largement financées et qui se sont associées à certains mouvements féministes ou à certaines féministes dans une croisade anti-trans. Donc là, effectivement, il y a eu aussi une évolution de qui sont les féministes anti-trans, c'est-à-dire qu'effectivement, on parlait de quelques personnes, et puis là, d'un coup, on a eu une convergence des luttes entre catholiques, chrétiens et des personnes qui auraient plutôt qui se revendiquent de convictions, qui revendiquent avoir des convictions féministes, voire qui sont ou ont été des militantes féministes historiquement. Sur des combats où on peut tout à fait reconnaître leur contribution. Hein. Là, il n'y a pas de souci du tout, mais qui se sont retrouvés dans un mouvement de convergence des luttes qui est passé par un renommage en gender critical et qui a eu l'effet aussi de beaucoup élargir les possibilités de recrutement. C'est-à-dire qu'on est passé d'un micro-mouvement qui se revendiquait du féminisme radical et d'idées finalement qui sont relativement difficiles à faire entendre d'une large partie de la population, à quelque chose qui va être beaucoup plus focalisé sur les dangers que présentent les personnes trans, et en particulier les femmes trans, qui sont donc volontiers décrites comme malhonnêtes, perverses, agresseuses sexuelles, voire violeuses, qui représenteraient un danger pour les femmes et les enfants. Voilà, hein, les femmes et les enfants. C'est vraiment ça. Et à partir de là, ce qu'on a vu au Canada, aux États-Unis, c'était notamment une association qui s'appelle le WOLF, comme le loup, Women's Liberation Front, qui est composée principalement de juristes et qui a mené des campagnes anti-trans dans plusieurs États américains, en lien avec des associations extrêmement conservatrices de défense de la famille. Par exemple, Alliance Defending Freedom, ADF, qui est très très active là-dessus. La Heritage Foundation, qui est une très puissante association conservatrice américaine, et qui va vraiment mettre de l'argent là-dedans, mettre de l'argent dans des campagnes médiatiques aussi. Et là où ça a été le plus prononcé, c'est au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, on a eu vraiment une polémique transphobe qui a pris une ampleur inimaginable. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qu'on aurait difficilement pu envisager il y a quelques années seulement, où il y a eu une multiplication par, je ne sais pas, peut-être dans la période, si on compare le nombre d'articles sur une période donnée avant et après le début de cette polémique, c'est multiplication par 100 du nombre d'articles parlant des personnes trans. Et bien sûr, sur un ton généralement négatif. Et par exemple, au Royaume-Uni, dans les figures importante du mouvement. On a par exemple donc la directrice anglaise de Citizen Go, dont je parlais tout à l'heure, qui est une association catholique financée par le Vatican. Voilà, donc la présidente de Citizen Go s'est retrouvée invitée sur pas mal de plateaux télé, dont notamment Good Morning Britain, qui est un programme du matin qui est assez suivi au Royaume-Uni. Qui est en fait, c'est une militante anti-avortement, une militante contre contre le mariage entre personnes de même sexe. Et c'est aussi devenu une militante anti-trans très suivie, y compris par des prétendus féministes. Et on a aussi l'exemple de Posy Parker, qui, elle, défend carrément une alliance entre féministes et mouvements conservateurs, notamment Défense de la Famille, des mouvements de droite, voire d'extrême droite, au travers d'une association qu'elle a créée qui s'appelle Hands Across the Aisle, la main tendue au travers de l'allée. Donc, est-ce que c'est surprenant de voir des féministes parler de genre ainsi? Oui, en fait, c'est surprenant si on pense en fait que ce sont des féministes, des personnes qui étaient féministes avant cette polémique, mais souvent ce sont des personnes qui n'étaient pas tellement impliquées dans les luttes féministes et qui, au travers de ces polémiques transphobes, ont eu le sentiment qu'elles étaient menacées en tant que femmes ou que les femmes étaient menacées lorsqu'il ne s'agit pas de femmes mais d'hommes. Et qui donc se sont impliqués dans un mouvement qui est essentiellement un mouvement d'extrême droite.
Et ceci dit, ce genre d'alliance a déjà existé dans l'histoire du féminisme, puisqu'il y avait certaines féministes radicales aux États-Unis dans les années 80 qui s'étaient alliées avec la droite conservatrice, notamment dans l'objectif d'interdire la pornographie. Donc parfois, il y a des alliances un peu étranges, mais effectivement, ce qu'il y a de... Là, on parle effectivement principalement d'une frange du féminisme qu'on peut qualifier peut-être de différentialiste, qui est peut-être la frange, entre guillemets, la moins radicale du féminisme et celle dont on est la plus éloignée. Mais malgré tout, il y a aussi, dans un féminisme qui nous est plus proche, le féminisme matérialiste ou le féminisme radical, et notamment le féminisme radical lesbien, des féministes et des féminismes anti-trans qui ne peuvent pas, en tout cas aussi explicitement, faire appel à une rhétorique naturaliste en disant que les femmes trans ne sont pas des vraies femmes parce qu'elles ont transgressé leur corps, etc. Forcément, elles doivent avancer un autre argumentaire avec lequel on est plus familier. Et l'intérêt aussi d'un matérialisme trans, c'est de contre-argumenter sur un terrain qui est lui aussi matérialiste ou lui aussi radical, en montrant en quoi est-ce que ces justifications pseudo-théoriques et pseudo-matérialistes ou pseudo-radicales ne sont en réalité que des formes de rationalisation d'un sexisme latent qui en fait reconduit le naturalisme, même si c'est de manière moins explicite que tous les féministes anti-trans dont tu as parlé.
En fait, ce dont tu parles là, j'imagine, c'est principalement l'argument de la socialisation, pour le nommer. C'est souvent dit qu'il y aurait une socialisation des femmes qui serait dès l'enfance et qui expliquerait d'une part la position sociale des femmes, leur comportement, et finalement aussi les difficultés de leur émancipation. Donc les personnes trans ayant été des personnes qui ont eu une rupture en fait, hein, dans cette socialisation, au sens où effectivement le rôle de genre qu'on a voulu forcer sur elles pendant leur enfance n'est pas forcément celui qu'on force sur elles plus tard, pendant et après leur transition. Il y a cet argument que, puisque ces expériences de socialisation ne seraient pas communes, en tout cas pas sur toute la durée de la vie, alors les femmes trans ne seraient pas légitimes à dire qu'elles sont des femmes, parce qu'elles ne partageraient pas les mêmes expériences, pas la même oppression, finalement, et éventuellement même elles auraient un comportement d'homme et se comporteraient comme des hommes. Où là, en fait, on a un effet de une volonté de masculiniser les femmes trans pour les discréditer, mais aussi pour sous-entendre leur agressivité.
Effectivement, tu mentionnais dans ta question le fait qu'on a un féminisme plutôt différentialiste, un féminisme qui contre un siècle de féminisme, hein, parce que ça date pas de Beauvoir, on n'est pas femme, on le devient, ça date au moins de la première vague, revient à une idée de nature, Donc c'est surtout aujourd'hui ce féminisme-là qui s'avère être un féminisme anti-trans et qui est plutôt un féminisme libéral, dans le meilleur des cas plutôt social-démocrate et dans le pire des cas s'alliant à l'extrême droite, y compris dans ses composantes catholiques et évangéliques principalement.
Voire, on parle carrément, enfin, ça peut carrément se raccorder à l'écologie.
À un certain écoféminisme très essentialiste qui prétendrait que la femme a un rapport direct à la nature de par son essence maternelle. Alors bon, merci pour toutes les femmes, que ce soit aussi sous trans d'ailleurs, qui ne peuvent pas avoir d'enfants ou ne veulent pas avoir d'enfants. Tout simplement, hein, apparemment, ces féministes ont oublié que l'un des principes, l'une des revendications de base du féminisme, c'est la libre disposition du corps. Mais bon, c'est sans doute ce type d'oubli qui les rend tout à fait compatibles à l'extrême droite catholique et évangélique. Mais toujours est-il qu'il faut néanmoins reconnaître que, historiquement, l'émergence des mouvements féministes anti-trans aux États-Unis a d'abord eu lieu plutôt dans les mouvements LGBT et plus ou moins dans une partie des féminismes lesbiens. C'est-à-dire dans un premier temps, dans les années 70, alors que, comme Constance le mentionnait tout à l'heure, on vivait dans une situation où vous aviez plein de communautés séparatistes, féminines et lesbiennes, donc des femmes cis, des femmes trans, ça ne posait pas de questions, donc les femmes trans soient out en tant que femmes trans ou pas out, pas un problème. Et à partir de 73 notamment, il y a une mise en cause par certaines féministes dont une partie était lesbienne, comme Janice Raymond, de cette présence des femmes trans dans le féminisme et souvent avec d'ailleurs une certaine tokenisation, une certaine prise comme alibi du lesbianisme. Par exemple, vous avez une féministe qui s'appelait Robin Morgan, assez importante dans les années 70, très importante, qui a fait un coup d'éclat à la conférence des lesbiennes de la côte ouest aux États-Unis en 73, en essayant de virer une chanteuse trans, Bess Elliott, en faisant un long discours pour cela. Et une féministe lesbienne qui prenait part à la conférence lui a dit « Mais en fait, Robin, t'es bisexuel, toi, et d'où, en tant que bisexuel, à une conférence de lesbiennes, tu te poses en juge pour savoir qui est légitime pour venir parler ici. » Alors, en plus, en réalité, à l'époque, elle était avec un mec, et beaucoup de gens font un peu l'hypothèse qu'elle cherchait à faire oublier qu'elle était hétéro en prenant un bouc émissaire trans à virer de la conférence à sa place. Bon. Toujours est-il que, historiquement, eh bien, en réalité, les mouvements féministes lesbiens et les mouvements féministes radicaux ont plutôt exercé une bonne force d'autocritique collective sur ces questions de cissexisme et ont plutôt eu tendance à marginaliser les féministes anti-trans en leur sein.
C'est toujours le cas aujourd'hui.
C'est toujours le cas aujourd'hui. Et de ce fait, où est-ce que les féministes anti-trans ont trouvé, une fois qu'elles se faisaient exclure du féminisme radical et du féminisme lesbien, ont trouvé un espace où s'exprimer, plutôt chez les féministes libérales, différentialistes, voire les féministes qui s'allient à l'extrême droite, ou qui viennent carrément de l'extrême droite, comme Constance le mentionnait tout à l'heure. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de féministes qui sont complètement libérales. C'est le cas, par exemple, de Megan Murphy, la directrice de Feminist Current, l'une des plus grandes publications anti-trans se prétendant féministe mondiale, qui passe son temps à écrire des articles pour dire « Attention, les femmes trans vont venir violer les lesbiennes. » Alors, malgré cela, l'un des arguments qui revient le plus régulièrement pour tenter d'exclure les femmes trans du féminisme, voire pour remettre en cause l'existence même des personnes trans, leur droit à changer de sexe, c'est un argumentaire qui n'est pas forcément différentialiste, qui ne se base pas sur l'idée de nature, mais l'argumentaire de la socialisation, effectivement, qu'on a évoqué, qui consiste à dire ce qui définit une personne, ce qui lui donne une forme de force d'inertie qui va la déterminer dans toute sa vie, ce sont ses premières années. Finalement, une forme d'application de certains postulats psychanalytiques, les premières années déterminent une personne pendant toute sa vie, au féminisme. Donc la socialisation, il y aurait une socialisation des femmes, et ça, ça ne serait pas partagé par les femmes trans. Et de ce fait, les femmes trans ne pourraient jamais devenir des femmes. Alors,
réciproquement, les hommes trans ne pourraient pas
devenir des hommes. Et les hommes trans ne pourraient pas devenir des hommes. Et on a une bonne illustration de cela, encore une fois, chez Robin Morgan, dans le discours qu'elle faisait en 73, la conférence lesbienne de la côte ouest, où elle parle de Bess Eliot en disant « Mais elle n'a pas vécu tout ce que j'ai vécu, tout ce que nous avons vécu en tant que femme. Elle, qu'est-ce qu'elle vit en tant que femme ? Bah juste, elle va mettre des vêtements de femme, sortir dans la rue, se faire un peu bully par les gens dans la rue, ça va lui plaire parce que c'est un pervers, et ensuite elle rentrera chez elle, elle redeviendra un homme. » Ça, on a une méconnaissance totale de ce que c'est que le changement de sexe. Il ne s'agit pas de se déguiser et après on rentre, on enlève une perruque. Non, les personnes deviennent complètement des femmes. Elles ne peuvent pas arrêter de l'être à un moment. Je peux vous dire que c'est pas après quelques années d'hormones que vous allez pouvoir dire « Ah ben non, plus personne ne va me percevoir comme femme ou alors va falloir maquiller les seins. » Et beaucoup d'autres choses. Bon, mais surtout... En dehors en fait de cette mécompréhension de ce que c'est que la transsexualité, comme s'il s'agissait juste d'un déguisement et non pas d'un passage tout de même assez définitif, assez marquant physiquement dans l'autre sexe, il y a trois objections assez importantes qu'on peut faire à cette idée de socialisation qui serait fixée une fois pour toutes après quelques années de la naissance. Première objection, la socialisation ne s'arrête pas. Elle ne s'arrête jamais dans la vie d'un individu. Et les personnes qui changent de sexe se resocialisent. Les personnes qui changent de sexe vont, à partir d'un moment, vivre totalement, ou du moins en grande partie, la vie sociale, l'expérience sociale et corporelle des personnes de leur sexe d'arrivée. Une femme qui devient une femme trans, va avoir la même vie sociale qu'une femme cis, et donc va avoir une nouvelle socialisation, une resocialisation en tant que femme. Première objection. Deuxième objection, c'est que quand on interroge des personnes trans, on se rend compte que, en réalité, les personnes trans, en tout cas une bonne partie des personnes trans, témoignent d'une socialisation minoritaire, d'une socialisation différenciée par rapport aux attendus de leur sexe d'origine.
Pendant l'enfance.
Et ce, dès l'enfance, dès les premières années, où il va y avoir notamment des violences de genre relatives au fait que ces personnes ne sont pas conformes à ce qu'on attend d'eux. Voilà, des petits garçons très féminins, des tomboys, des petites filles très masculines, qui vont occasionner des violences de genre à l'école, dans la famille, par les pères, assez violentes, qui font que on ne peut pas dire que... elles aient vécu une socialisation typique d'hommes. Et surtout, quand on parle entre personnes trans de ces socialisations, vraiment, on retrouve très souvent des tressaillants. On dit « Ah oui, toi aussi, on t'a demandé si t'étais un garçon ou une fille. Toi aussi, on t'a frappé après t'avoir posé la question et avant que tu répondes. Toi aussi, t'as été... » beaucoup de choses.
Mais alors,
c'est un autre exemple.
Ce qui est très drôle, c'est que par rapport à mon expérience personnelle, pendant une grande partie de... Pendant les premières années transition, post-transition, j'essayais de soutenir que non, moi je n'avais pas eu d'expérience spécifique pendant mon enfance et que bon, en fait, j'avais été un petit garçon tout à fait normal. Et puis les années passant, j'étais un petit peu forcé de me rendre compte que, ah oui, mais j'ai vécu une agression sexuelle à tel âge qui était quand même pas exactement une expérience commune des garçons, des adolescents. Et j'ai vécu du slut-shaming à un âge et d'une manière qui ne concerne habituellement pas les adolescents. Enfin, ce genre d'expérience, et alors que pourtant j'ai cherché à nier ça, tu vois, dès le départ. Donc, et on retrouve ça effectivement chez beaucoup de femmes trans, mais... C'est presque assez inévitable.
Absolument. Et la troisième objection, je vais être très rapide, c'est que, d'un point de vue sociologique, l'idée d'une socialisation femme, d'une socialisation homme qui serait un monolithe, ça ne tient pas. Il n'y a pas une seule manière d'être socialisé en tant que femme, tout simplement, parce que ce n'est pas la même chose de devenir une femme quand on grandit dans la bourgeoisie, ou dans la classe ouvrière, ou à la campagne, à la ville, en étant racisée, en étant blanche. Et c'est pas non plus la même chose qu'on grandisse en tant que petite fille cis ou petite fille trans qui va devenir plus ou moins une fille trans. Si je devais me passer, pencher sur mon passé, je dirais pas que j'ai eu une enfance de petit garçon, j'ai eu une enfance de petite fille trans qui vit un certain nombre de violences spécifiques en tant que telle. Ce serait une erreur de croire qu'il y a deux socialisations genrées monolithiques.
Et je me demandais, c'est tout à fait une question parce que je n'ai pas du tout la réponse à ce que je vais vous demander, mais est-ce que, parce que la socialisation, c'est à la fois effectivement l'éducation des parents ou du moins de la famille proche, mais c'est aussi les messages qu'on reçoit de la télévision, des dessins animés, des livres, etc., qui nous inculquent une vision binaire des gens, etc. Mais est-ce que quand on est une petite fille trans, ou, enfin, je ne sais pas si on peut parler de petite fille trans, mais enfin, si on va être une femme trans, peut-être que les messages qui sont destinés aux petites filles, on les reçoit de manière différente que par les petits garçons cis ou que par les petites filles cis. Enfin, je veux dire que j'ai l'impression que toute cette accusation à l'encontre des femmes trans qui ne seraient pas des vraies femmes parce qu'elles n'ont pas reçu la socialisation de petites filles par les féministes anti-trans se base sur le présupposé que seuls les parents vont avoir une influence, enfin vont participer de la socialisation de leur enfant, mais il y a tout le reste qui ne vise pas directement l'enfant par son prénom, mais qui structure en tout cas sa vision genrée du monde.
En fait, une expérience très répandue chez les personnes trans, et pour prendre donc l'exemple des femmes trans, c'est que très jeunes, dans leur enfance, elles ont exprimé le fait de ne pas être des garçons, enfin, la conviction même de ne pas être garçon et la volonté finalement de changer de sexe, ou même la conviction d'être une petite fille. Ce sont des expériences qui sont relativement courantes, pas systématiques, mais assez répandues, et évidemment qui ont fait l'objet d'une répression de la part de l'entourage familial, scolaire, éventuellement médical même, et qui ont dû seulement des années plus tard, à l'âge adulte, parfois tard dans la vie adulte, ont pu trouver la possibilité de changer de sexe. Donc, d'une part, il y a cela, le fait que ça peut effectivement... sont des choses qui peuvent s'exprimer relativement tôt, sans tenter de faire un quelconque essentialisme. Et d'autre part, ce que je pourrais dire aussi, c'est s'il y a des stéréotypes de genre, des normes de comportementales qui touchent les garçons et les filles, pour les faire respecter, en fait, il ne faut pas seulement que les filles aient conscience de ces normes, mais il faut aussi que les garçons aient conscience de ces normes pour sanctionner les écarts. Et réciproquement d'ailleurs, même si, bon, genre, c'est quand même mieux d'être petite fille que petit garçon que petite fille, clairement. Mais donc en fait, cette conscience-là ce que doit être une fille, ce que doit être un garçon selon les normes patriarcales, elle existe chez tous les enfants. Sans doute, elle est plus aiguë chez les filles et chez les femmes plus tard. Qu'elle l'est chez les garçons et les hommes, mais elle existe chez tous les enfants. Et dès le moment où des enfants ou des adultes, des adolescents, envisagent le changement de sexe, la possibilité de passer d'une catégorie de sexe à l'autre, il y a la conscience de ces normes qui existent déjà et la nécessité de s'y conformer pour être reconnu comme appartenant au sexe revendiqué. Donc, non seulement cette conscience-là, mais aussi, tout simplement, des sanctions qui apparaissent très très vite, dès le début de la transition. Ce sont aussi des expériences qui sont très courantes chez filles, garçons, hommes et femmes trans, d'avoir des réprimandes de leurs parents, ou de leurs amis dès le début de leur transition, qui vont être de l'ordre de « mais une fille ne se comporte pas comme ça, un homme ne se comporte pas comme ça », et des incitations à changer leur comportement.
Oui, et on pourrait rajouter en termes d'objection que souvent l'idée que les femmes trans auraient une expérience du genre différente des femmes cis se base aussi sur une vision très stéréotypée des femmes cis, qui élude le fait qu'on reconnaît comme ayant eu une expérience de femme cis, et ça, les féministes anti-trans ne le contestent pas, à la fois des femmes cis qu'on qualifierait de très féminines ou de très masculines, ce qui montre... Et du coup, s'il y a vraiment un peu une espèce d'hypocrisie aussi dans cette espèce d'idée, une espèce de socialisation unique et très stéréotypée, et en plus qui s'appuie souvent sur une norme blanche et petite bourgeoise. Et puis d'autre part, il y a aussi le problème de cette théorie de la socialisation, c'est aussi que les individus, d'ailleurs là pour le coup cis ou trans, sont vus comme... simplement genrer de manière passive et unilatérale, et comme si c'était simplement des espèces de petits produits qu'on fabriquait, sans qu'il puisse y avoir des réponses ou des contestations de ce processus de genrage.
C'est ça, tout à fait. S'il n'y avait pas d'exception, d'écart à la norme, à l'apprentissage des normes de genre, il n'y aurait pas de lesbiennes et d'homosexuels. Voilà, et pourtant il y en a. Il n'y aurait pas de trans non plus. Donc ça montre bien que c'est juste pas possible de montrer ça comme quelque chose de totalement monolithique.
Mais c'est-à-dire que l'argument de la socialisation est un faux argument. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le croit souvent mélangé, comme chez Raymond, à l'argument naturaliste de l'assignation biologique à la naissance. Parce que la socialisation... et penser comme quelque chose de fixe et d'immuable. Et c'est très net chez Janice Raymond, où elle indique que la socialisation dépend de quoi ? Des chromosomes. C'est que, en fonction des chromosomes qu'on a, eh ben, on sera éduqué comme une petite fille ou comme un petit garçon. Alors bon, évidemment, elle squeeze l'intersexuation. Plus exactement, elle en parle, mais en disant « Oh, c'est minoritaire, et de toute façon, on les éduque quand même comme des filles ou des garçons. » Alors, c'est ce qui est vrai, mais pas dans le sens où elle l'entend. Mais il y a vraiment l'idée que la socialisation, c'est quelque chose qui se joue très vite, de manière définitive et sans risque d'échec. En fait, ce qu'il faut bien voir dans ce mélange d'arguments, c'est que les féministes anti-trans ne s'embarrassent généralement pas trop de cohérence théorique. Quand vous lisez par exemple l'Empire transsexuel de Janice Raymond, elle essaye de gagner sur tous les tableaux argumentatifs. À savoir, elle va parler de chromosomes. Bon, elle se rend bien compte à l'époque, hein, la biologie commence vraiment à mettre en cause dès cette époque-là, dès les années 70, que les chromosomes seraient intégralement responsables de la sexuation humaine. Donc elle va essayer d'aller gagner sur le plan de la socialisation, puis le plan de la morale avec sa sacralisation du corps. C'est-à-dire qu'elle essaye de parcourir tous les domaines d'argumentation auxquels on pourrait penser pour dire « mais les femmes trans sont des hommes déguisés ». Sans se poser la question de la cohérence entre ces différents arguments, puisque sur le fond, il ne s'agit pas d'une théorie extrêmement cohérente intellectuellement. Tu parlais tout à l'heure de rationalisation. Il s'agit simplement, effectivement, de tenter de donner une justification théorique à une exclusion sociale existante, l'exclusion cis-sexiste. Et ce en quoi les féministes anti-trans ne font que reproduire à l'intérieur des mouvements féministes, une marginalisation, une exclusion qui a déjà lieu systématiquement à l'échelle sociale dans les sociétés patriarcales et hétérosexuelles qui sont les nôtres.
Même au-delà de l'argument de la socialisation, en fait, on peut se poser la question des conditions de vie, c'est-à-dire qu'est-ce que vivent les femmes trans et qu'est-ce que vivent les hommes trans, quelles sont dans leur manière d'interagir avec autrui au quotidien, les privilèges qui leur sont accordés ou les violences que ces personnes subissent. En fait, on n'a pas besoin d'une théorie de la socialisation pour montrer que leurs conditions matérielles, en fait, sont celles d'hommes et de femmes. Rejoignent en tout cas celles des hommes et des femmes cisgenres, d'une manière où en fait il n'est pas... toujours aisé de montrer en quoi ça diverge. Donc la socialisation là-dedans, c'est vraiment plus une explication ad hoc.
Oui, et là où éventuellement ça peut diverger, c'est plus pendant le processus de transition où la société ne va pas reconnaître les femmes trans comme des femmes. Mais bon, alors après, il y a différentes explications qu'on peut discuter, soit comme une espèce de troisième genre, soit comme des hommes trop efféminés ou des femmes trop masculines, selon les explications. En tout cas non conforme, et là effectivement il y a un vécu qui peut être un petit peu spécifique, mais finalement dans le cadre d'un féminisme intersectionnel, on peut très bien penser aussi, comme on le redit encore une fois, mais que de toute façon le vécu des femmes n'est pas un vécu unique, mais par contre effectivement il y a des vécus communs globalement à peu près à toutes les femmes, c'est-à-dire l'assignation au travail domestique, l'exploitation sexuelle, le harcèlement, etc. Et ça, on le retrouve bien, effectivement, dans le cas de toutes les femmes trans, comme dans le cas de toutes les femmes en général, quoi. Alors, peut-être pour finir, vu qu'on a maintenant répondu au féminisme anti-trans, y compris au féminisme anti-trans qui partage un paradigme radical ou matérialiste, on peut peut-être, du coup... maintenant, voir un peu les divergences avec, pour le coup, des féministes, des féminismes, des féministes, un féminisme qui n'est pas anti-trans, pour le coup, qui est le féminisme queer. Alors, du coup, on sait qu'il y a des divergences assez importantes entre le féminisme matérialiste et le féminisme queer, sur lesquelles on ne va pas revenir directement ici, mais quelles sont un peu les différences qu'on peut retrouver entre le transféminisme matérialiste, le transféminisme queer, sur quoi portent ces divergences
Je ne parlerai pas forcément de transféminisme matérialiste et transféminisme queer. Les divergences sont vraiment essentiellement celles du féminisme matérialiste et celles du féminisme queer. Avec des personnes qui vont se revendiquer plus ou moins du transféminisme, parfois ouvertement, ou parfois c'est plus ou moins quelque chose une étiquette qu'on leur attribue, et qui peuvent tout simplement avoir des convictions, des bases théoriques différentes entre, d'une part, féminisme matérialiste et féminisme queer. Alors, ça va mener effectivement des désaccords en ce qui concerne la théorisation de la transsexualité et de l'action politique qui devrait en résulter.
Alors je pense que effectivement Constance a raison sur le fait que à la base l'investissement de la question trans procède plutôt de débats, voire de polémiques qui sont antérieures entre les féministes matérialistes et les féministes queer. Mais que bon, cet investissement n'est pas neutre pour la question de ce qu'il s'agit d'entendre à la fois par transsexualité et effectivement les perspectives politiques. Et je crois que ce dont on peut repartir, c'est la question de ce qu'il faut entendre par genre. C'est-à-dire que dans une perspective matérialiste, on entend genre au singulier, le genre pour désigner le système social patriarcal et hétérosexuel dans lequel nous vivons, qui divise et qui hiérarchise l'humanité en deux groupes de sexe, les hommes et les femmes. Tandis que on va trouver un usage de genre beaucoup plus au pluriel dans les écrits queer, par exemple, de Judith Butler, de Sam Bourcier et de Paul Preciado, au sens où, pour faire face au patriarcat, l'hétérosexualité obligatoire, il s'agirait faire proliférer des genres individuels. Sam Bourcier parle de prolifération des genres dans son écrit « Homo Incorporated ». Et Butler, dans la préface à la seconde édition de Troubles dans le genre, écrit « J'ai rencontré énormément de personnes et quasiment autant de genres que de personnes ». Donc finalement, le genre serait une qualité individuelle, intérieure, que les individus peuvent faire proliférer pour essayer de résister à la société. Alors quel est le problème de cela par rapport à la transsexualité? Le premier problème, c'est que en se focalisant sur le genre, il y a vraiment le risque de la part des discours queer de nier la réalité de l'expérience du changement de sexe. Vous avez beaucoup de discours queer comme ceux de l'association bruxelloise Genre Pluriel qui consiste à dire ce qui est important, c'est le genre, c'est ce qui est dans la tête des gens, dans la tête des individus. Le sexe, on n'en change pas, mais le genre, on peut en changer. Ce qui est extrêmement cissexiste en réalité. C'est à quoi des personnes trans vont répondre, ben non, je change de sexe socialement, voire physiquement, je change de sexe et je trouve ça assez violent de me dire que je ne ferai que changer des choses dans ma tête. C'est le premier problème. Le second problème, c'est un problème de programme politique. Le féminisme matérialiste vise à l'abolition du genre au singulier, vise à l'abolition de l'existence des classes de sexe et de la hiérarchisation sociale des classes de sexe, et considère que ce n'est pas parce que des individus vont essayer de subvertir les stéréotypes de genre que ça va avoir un effet politique déstabilisateur global sur nos sociétés patriarcales. Enfin, le troisième problème, c'est que ces discours queer focalisés sur l'identité, sur la subversion de genre, sur le fait de sortir de la norme, pour séduisant qu'il puisse être, ne touche qu'une partie de la population trans en son sens le plus large. On a l'impression, parce que c'est la partie la plus médiatisée, la plus visible, que les trans aujourd'hui, ce sont des gens qui détruisent les codes, qui détruisent les normes, qui sont dans la subversion, l'affirmation de leur originalité, voire de leur caractère volontairement monstrueux. C'est Paul Preciado qui appelle son dernier ouvrage « Je suis un monstre qui vous parle ». En réalité, si ce que vous cherchez, c'est avoir un emploi, si vous avez un entretien d'embauche à la fin de la fenêtre, à la fin de la semaine, vous n'allez pas dire que vous êtes un monstre, vous n'allez pas dire que vous êtes un freak, vous n'allez pas chercher à montrer que vous êtes trans, vous allez plutôt essayer de rentrer un peu dans les clous pour l'avoir, ce fameux emploi. En réalité, sociologiquement, quand on regarde un peu les études sociologiques qui ont été faites, par exemple, par Emmanuel Bobatti ou par les instituts de sondage américains, comme il y a pris de sondage en France, ou encore si vous faites un travail quantitatif sur les forums trans sur Internet et sur les groupes de discussion trans, vous rendez compte qu'en termes de population, il y a un iceberg transsexuel, c'est-à-dire un iceberg de personnes qui passent d'homme à femme ou de femme à homme, et souvent avec des moyens médicaux, un iceberg de population transsexuelle sous un petit îlot émergé queer, beaucoup plus visible, et qui prétend parler pour tout le monde, alors que cette forme de discours qui vise la subversion pour la subversion de genre pour la subversion de genre, eh bien beaucoup de gens, beaucoup de personnes trans, ne peuvent pas tellement l'appliquer dans leur vie sous peine de punition sociale, ou alors vont le faire de manière peut apparaître plus traditionnelle, plus ancienne par rapport au mouvement queer. Vous allez avoir beaucoup de femmes trans lesbiennes qui vont être butch. Donc c'est une forme d'identité féminine non traditionnelle, non stéréotypée, mais antérieure à l'émergence du mouvement queer, où beaucoup d'hommes trans qui vont être et revendiquer d'être des pédés folles, voire qui revendiquaient une forme de fémitude, d'être pédé et un peu femme, d'avoir un peu d'esthétique femme à la fois. Mais ça, c'est aussi quelque chose d'antérieur au mouvement queer, et surtout, c'est quelque chose qui ne remet pas en cause leur perception sociale dans leur sexe d'arrivée et les risques que ça impliquerait, tout simplement, pour leurs conditions de vie sociale.
Ce que je voudrais dire aussi, c'est que cette perception du genre comme un caractère individuel, une caractéristique de l'individu, elle amène aussi, on l'a malheureusement constaté, à une focalisation sur, malheureusement trop courante, sur une réalité psychologique, psychique, en lieu et place de se focaliser sur la volonté de transition, c'est-à-dire qu'on aura pas mal de personnes s'interrogent, peut-être suis-je trans, pourrais-je, est-ce que finalement je pourrais devenir une femme ou je pourrais devenir un homme, genre c'est quelque chose qui me tente, mais je ne sais pas comment ça se fait, je ne sais pas comment on fait, et qui vont être confrontés à des discours qui vont mettre en avant plus finalement ce que j'ai parlé du développement personnel, c'est-à-dire explore ton identité, explore ta personnalité pour trouver ton genre unique, le tien, plutôt que proposer des formes de modification sociale et corporelle qui vont permettre de trouver un confort en fait grâce à des formes de transition, de trouver un confort qui peut manquer à ces personnes-là et qui a mené en premier lieu à ces questionnements-là. Un autre aspect, c'est que en faisant de cette subversion individuelle des normes patriarcales, le centre et le moyen de l'action féministe et le centre peut-être même de la réflexion, plutôt que de mettre en avant des stratégies de solidarité, en fait, on va se retrouver à avoir, du point de vue féministe en général, on peut estimer que c'est une mauvaise stratégie, que l'un ou l'autre est une meilleure stratégie, d'une part, mais du point de vue spécifique des personnes trans, en fait, il y a le risque d'être incité à représenter, parce qu'on est trans, et parce que cette expérience trans est si marginale par rapport aux normes patriarcales, à être une sorte de figure de proue de la subversion du genre, et finalement de rendre les personnes trans encore plus responsables de la subversion du genre que les personnes cisgenres. Et ça se traduit par exemple par des appels à la désidentification, c'est un terme qu'utilise beaucoup par exemple Paul Preciado, qui dit « en tant qu'homme trans, je me suis désidentifié des catégories d'hommes et des catégories de femmes ». Et cette désidentification, bon, Paul Preciado peut la revendiquer pour lui-même, mais parfois, elle se traduit aussi par une injonction qui va être dirigée beaucoup plus vers les personnes trans que vers les personnes cissexuelles à se désidentifier de leur genre. Et c'est-à-dire, concrètement, c'est dire, par exemple, à des femmes trans, vous êtes tellement préoccupées par votre identité de femme, alors qu'on revendique une solidarité entre femmes, et de dire, en fait, vous êtes trop préoccupées par votre identité de femme. Et on revient finalement à une transphobie tout à fait classique. C'est toi, tout ce qui t'intéresse, c'est d'être une femme, mais au final, le féminisme, tu t'en fiches. Donc ce sont des conflits qui peuvent être assez douloureux à vivre lorsqu'on est directement la cible de ce genre d'accusation. Lorsqu'on nous dit, voilà, t'as tellement envie d'être une femme, enfin genre, moi je suis personnellement plutôt butch, et donc ouais, quand on me dit ouais, t'as tellement envie d'être une femme, non, genre, mais même si on est beaucoup plus féminine, c'est tellement une manière de psychologiser l'expérience et la réflexion politique des personnes trans, principalement des femmes trans, il faut le dire, en disant, ben voilà, t'es juste une meuf en quête de reconnaissance sociale de ton genre de femme et pas un sujet politique.
Absolument, et ce type d'utilisation, de tokenisation des femmes trans comme devant incarner la subversion de genre de la part de cis, ça peut conduire à des comportements, voire des visions de la transsexualité extrêmement hostile, finalement. C'est-à-dire que des gens plutôt bien intentionnés, qui viennent plutôt du milieu queer, des personnes cis, vont reprendre des stéréotypes qu'on trouve chez les TERF et les appliquer aux personnes trans, à savoir les personnes trans renforceraient les stéréotypes de genre. Ce serait les femmes trans s'habilleraient tout en rose, ce serait du maquillage. Bon, voilà, entre ton look de butch et mon look de skin, je crois qu'on n'en dit pas trop. Mais du coup, ça conduit vraiment à une forme d'hostilité envers les femmes trans qui essaieraient tout simplement de vivre comme elles peuvent dans cette société sans se faire casser la gueule dans la rue. Je me rappelle d'une expérience que j'avais vécue à Villeurbanne il y a quelques années. On passait un documentaire pas très intéressant sur la transsexualité, et bon, on suivait plein de jeunes trans, de mineurs trans en l'occurrence, dans leur vie quotidienne et leur démarche médicale. Et à un moment dans la discussion, une cis nous pose la question, quand même, notamment, on voit cet homme trans qui fait de la musculation, je trouve quand même que il reproduit vraiment, il renforce les stéréotypes de genre. Mais il y a un moment, il faudrait que ces personnes se rendent compte, c'est ce que je lui avais répondu, je pense qu'elle l'avait entendu, que ce genre de démarche qui consiste, de la part de cis, à aller voir une population déjà extrêmement minorisée, stigmatisée, que sont les personnes trans, et à leur dire, vous qui êtes sur cette question cis-trans encore plus marginalisée que nous, vous devez être notre étendard, vous devez être notre avant-garde de la déconstruction du genre, c'est absolument indécent. Donc, si les cis veulent déconstruire le genre, c'est plutôt une bonne idée, qu'ils le fassent, on les suivra, mais qu'ils aillent en premier.
Et lorsque ça touche à des questions médicales, notamment, ça peut être particulièrement grave, parce que du coup, les opérations, en particulier les opérations génitales, qui peuvent être relativement stigmatisées, en fait, surtout chez les hommes trans, les opérations médicales les opérations génitales sont un sujet de discussion assez, assez peu abordé, assez difficile, il est assez difficile d'en parler, mais même aussi chez les femmes trans. Finalement, on va presque nier la gentilité des personnes trans en leur disant que rechercher la modification de leurs caractéristiques physiques serait nécessairement et toujours une démarche normative, ce qui est peut-être le cas, je veux dire. On peut tout à fait dire, ben voilà, je vis assez mal le fait d'être une femme avec une bite, et dans ma vie, ben, ça serait vachement plus pratique si j'avais juste une anatomie une anatomie qui ne révélerait pas dans ma nudité, ou lorsque je vais à la piscine, ou lorsque je fais des activités qui peuvent impliquer de davantage révéler son corps, une anatomie qui ne révèle pas que je suis trans. Et donc, il y a une injonction à refuser toute forme de normalisation et voire toute forme de modification du corps, qu'on retrouve aussi parfois dans les courants queer. Et alors, ça va se traduire, ça va se traduire aussi par en fait des tentatives de décrédibiliser ces démarches-là, en disant que, ou bien, oui, mais tu ne l'as pas vraiment choisi, c'est quelque chose qui t'a été imposé, etc., etc. Mais aussi, tout simplement, en sous-entendant que ces organes obtenus par la médecine, par des modifications hormonochirurgicales, seraient moindres que les organes d'origine, notamment en termes de plaisir, en termes de sexualité principalement. Donc finalement, il y a aussi des entraves à la transition qui peuvent, pas systématiquement, mais qui peuvent découler de cette manière de penser la transsexualité et penser le genre en des termes beaucoup plus individuels, et de penser finalement la libération vis-à-vis du patriarcat.
Pour prendre un exemple de ce que disait Constance, il faut savoir que par exemple, grandes figures de la pensée queer francophone, à savoir Paul Preciado. Dans certains de ses articles, de ses chroniques, certaines de ses chroniques dans Libération qui ont été reprises dans son ouvrage Un appartement sur Uranus, qualifie les interventions chirurgicales faites sur les personnes trans de mutilation, rejoignant par là Janice Raymond et les féministes anti-trans. Je trouve ça extrêmement violent de qualifier de mutilation des opérations qui sont désirées, choisies d'une manière éclairée par des personnes trans, et qui non seulement sont choisies de manière éclairée, mais sont vécues par ces personnes comme étant une amélioration de leur corps et de la manière dont elles vont le vivre. Si Paul Preciado ne veut pas d'opérations génitales ou de la poitrine, je ne sais même pas si on en fait ou pas, qu'importe, mais sinon on ne veut pas, très bien pour toi, Polo. Mais il ne peut pas se permettre d'imposer normativement ce refus aux autres personnes trans et dévaloriser ainsi l'acte et les corps, les organes des personnes trans ayant choisi, pour X ou Y raison, de se faire opérer. Il ne faut pas, renverser la prétendue sortie des normes que serait la pensée queer en l'élaboration de nouvelles normes dont les victimes se trouveraient être la population trans.
Mais d'autant plus que ces opérations ne sont pas si faciles d'accès. C'est pas, je veux dire, on ne va pas choper des gens trans dans la rue, les foutre dans un bloc opératoire sous anesthésie et ils vont ressortir malgré eux opérés. Genre, par exemple, la youtubeuse Laura Badler avait quand même, genre, avait l'air, je sais plus, c'était il y a quelques mois, qu'elle disait en gros, oui, la Sofecte veut essayer de me couper la bite. Genre, non, personne va aller te chercher, mais c'est vraiment une vision de la transition, ou en tout cas de certaines procédures associées à la transition. Qui va les penser celle-ci comme quelque chose de punitif, en fait. Et là, ça a fait même appel à un certain imaginaire de la transition punitive qu'on trouve
au cinéma.
Au cinéma, oui, dans ce film de Pedro Almodovar.
La pièce qui habite et dans Revenger de Hill.
Voilà, donc c'est quand même quelque chose de violemment transphobe.
Absolument.
Et qui, de plus, nie les réalités matérielles que rencontrent la majorité des personnes trans qui veulent effectivement avoir recours à ce genre d'opérations en France. Les difficultés, notamment, les embûches notamment semées par la Sofecte, qui elle-même demande des conditions quand même assez hallucinantes pour prouver, entre guillemets, la réelle, entre guillemets.
Alors, heureusement, certes, la Sofecte fait encore tout un conditionnement psychiatrique de l'accès aux transitions, mais il faut reconnaître que la lourdeur de ce conditionnement tend, alors non pas à disparaître, mais un petit peu à s'amenuiser, du moins dans une partie des centres Sofect, notamment à Lyon et à Paris autour de l'hôpital Tenon. Mais il n'en demeure pas moins que y a toujours la nécessité de passer par les psys, que beaucoup de personnes vivent mal. Et des psys qui ne sont pas choisis, ce qui sont imposés dans la plupart des cas par le corps médical, ce qui est contraire à la loi, qui indique que les patients et les patientes sont libres de choisir leur médecin. Mais surtout, le problème est un problème de temps, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se faire opérer, il y a peu de chirurgiennes et chirurgiens, d'où une augmentation des listes d'attente. Mais après, il faut bien se rendre compte que la demande pour qu'il y ait des opérations de changement de sexe, pour qu'il y ait de plus en plus de chirurgiens qui se forment. Et surtout, le perfectionnement des techniques d'opération, du fait d'une mise en concurrence des chirurgiennes et chirurgiens en disant « Ah, t'as fait telle opération, par exemple, je sais pas, la mammectomie ou la vaginoplastie avec tel chirurgien, je crois que je connais une personne qui l'a fait, c'est pas terrible, va plutôt voir tel chirurgien ou telle chirurgienne, que ce soit en France ou dans un autre pays. » Il y a eu toute une mise en concurrence et, une, et un partage d'informations par les personnes trans au sujet des chirurgies qui ont fait que en fait, les chirurgiens ont été un peu obligés de se former et de perfectionner leur technique. Hein. Si vous prenez les opérations françaises d'il y a 20 ans et les opérations françaises aujourd'hui, ça a énormément évolué. Il y a aujourd'hui des bonnes opérations de changement de sexe en France, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Donc il faut vraiment bien prendre en compte que ces opérations, non seulement leur existence, mais aussi leur qualité, leur évolution technique et le rapport des médecins aux patientes et aux patients, le fait qu'ils ont de moins en moins recours à un énorme suivi psychiatrique des années pour le faire, ça vient d'une pression militante. Ça vient d'une pression militante du monde collectif, des collectifs et des associations trans, ou alors des réseaux informels de partage d'informations entre trans, pour essayer d'améliorer les pratiques de ces chirurgiens. Donc on est quand même assez loin de l'image du chirurgien qui vous force à vous faire opérer. En revanche, il y a bien deux choses qui subsistent, auxquelles il faut faire attention, contre lesquelles il faut continuer de lutter. La première chose, c'est le conditionnement des hormones au fait d'affirmer « je veux faire toutes les opérations, y compris les opérations génitales ». C'est-à-dire que beaucoup, pas tous, mais beaucoup d'endocrinologues, de généralistes estiment par prudence qu'il vaut mieux que... Enfin, par prudence, en réalité, les gens ne vont pas leur faire de procès. Il n'y a pas de moyen de le faire en France, qu'il vaut mieux que les personnes disent qu'elles veulent changer de sexe au niveau génital pour leur donner les hormones. Bon, après, au pire, vous mentez. De plus, c'est de moins en moins le cas. De moins en moins de gens, en fait, pour les hormones, passent par la Sofect. De plus en plus de gens passent par le secteur libéral. Bon, mais quand même, il faut prendre compte que ça existe et que souvent, ça oblige des gens à mentir ou du moins à faire des omissions. Par exemple, des gens qui ne sont pas encore trop fixés au niveau de ce qu'ils veulent faire au niveau génital, à dire oui, je suis absolument sûr, comme ça on leur donnera les hormones. C'est le premier problème. Le deuxième problème, qui est peut-être encore plus grave, parce qu'à la limite, pour le premier, on peut juste mentir, c'est que ça concerne les hommes trans, où il y a une énorme pression à l'hystérectomie. C'est-à-dire que beaucoup de chirurgiens en France vont avoir tendance à conditionner le fait de faire une mammectomie, pas tous les chirurgiens, mais quelques-uns encore, le fait de faire une mammectomie, à faire une hystérectomie, c'est-à-dire à faire une ablation des ovaires. Et donc là, il y a un pur eugénisme. Les hommes trans ne doivent pas se reproduire, il ne faut pas qu'il y ait des hommes enceintes, c'est une aberration, ce serait une aberration de la nature. Et ça, c'est quelque chose qui existe encore un petit peu aujourd'hui et qui est vraiment quelque chose contre lequel lutter.
Et ce serait aussi une aberration légale, puisque la loi n'envisage absolument pas que quelqu'un qui est homme à l'état civil puisse donner naissance à un enfant.
Alors que ça a lieu déjà de manière assez nombreuse. Il y a beaucoup de papas trans dans notre société, bien heureusement.
Oui, et juste pour finir, pour faire le lien avec ce qu'on disait sur effectivement certaines injonctions qui peuvent être véhiculées par des théoriciens et théoriciennes queer comme Paul Preciado, on voit bien que finalement ces injonctions à la fois d'une part du milieu médical et d'autre part de certains théoriciens et théoriciennes queer, ne facilitent pas du tout la vie des personnes trans. Surtout que du coup, on se retrouve avec des injonctions de part et d'autre, où à la fois il s'agirait de se conformer aux normes de genre strictement du sexe de destination ou du sexe d'arrivée, et en même temps il faudrait incarner la subversion la plus totale des normes de genre, et du coup, enfin, tout ça pour dire que il faudrait éviter que les théories queer rajoutent des nouvelles injonctions aux personnes trans, alors que précisément le mouvement queer s'était battu justement sur la contestation des injonctions normatives sur les questions de genre, quoi.
Tout à fait.
Après, j'ai toujours des doutes. Finalement, lorsqu'on parle, est-ce que les mouvements queer mènent à des injonctions contradictoires ? C'est difficile de dire, est-ce que c'est probablement pas quelque chose de général, et c'est peut-être une généralisation un peu hâtive, mais en même temps, ce sont des phénomènes qu'on observe de manière beaucoup trop fréquente, et qui au-delà même de toute considération de justesse théorique, mène inévitablement à une certaine méfiance vis-à-vis de théories politiques qui sont instrumentalisées par certaines personnes de cette manière-là.
Oui, et puis à minima, on peut dire que le mouvement queer ne produit pas toujours forcément d'injonctions contradictoires, mais que par contre, le fait que les personnes trans soient exposées en même temps à des discours queer faisant des injonctions dans un sens de « il faut que vous incarniez l'avant-garde de la transgression du genre » et en même temps les discours cis-sexistes ambiants sur « si vous voulez transitionner, il faudra passer par voilà, tout un tas de critères normatifs », les deux en même temps fait que du coup ça aggrave la condition des femmes trans et des hommes trans, alors que s'il y avait juste, enfin, ça devrait pas être le rôle du mouvement queer d'accroître cette espèce de cacophonie autour des personnes trans, quoi.
Et même c'est pas nécessairement contradictoire dans le sens où effectivement lorsqu'on a c'est quand même finalement assez tout à fait c'est tout à fait possible de s'épanouir dans une forme d'androgynie. Au-delà de ça, on se rend compte que dans l'accès à la médecine et dans l'accès en particulier aux techniques de transition, finalement, on est beaucoup mieux traité par les médecins, par les chirurgiens, les endocrinologues. Les médecins en général, on est beaucoup mieux traités lorsque finalement on a déjà fini sa transition. Et c'est totalement idiot, mais l'accès à la transition est presque conditionné au fait d'avoir déjà transitionné, ce qui est finalement toute l'idée de la l'expérience de vie réelle, qui était donc un ancien critère, comme on en parlait tout à l'heure, un ancien critère d'accès à la transition où on devait vivre en tant que femme dans le sexe désiré, souhaité, le sexe de destination avant toute tout changement hormonochirurgical. En fait, les médecins sont quand même beaucoup plus sympas lorsqu'on a déjà fini sa transition et qu'on a finalement beaucoup moins besoin de leur aide. Mais du point de vue aussi de la subversion du genre, finalement, c'est beaucoup plus confortable d'adopter des forme de féminité ou d'être femme ou d'être lesbienne divergente. C'est plus facile, peut-être plus facile d'être butch. En tout cas, on se pose beaucoup moins de questions en fait lorsqu'on a transitionné médicalement, en fait, lorsque médicalement et légalement, c'est-à-dire lorsque ces obstacles-là sont passés derrière soi. Lorsqu'on a finalement réussi peut-être cette forme de normalisation, peut-être anatomique ou légale, et ben on peut aussi beaucoup plus s'épanouir dans des formes, dans une expression de genre ou dans un rapport à la féminité ou à la masculinité qui va s'éloigner des normes patriarcales.
Par ailleurs, pour être tout à fait exhaustif quand même sur ces divergences entre courant matérialiste et courant queer à l'intérieur du féminisme, il faut aussi savoir que il ne s'agit pas non plus d'une opposition totale, à la fois théoriquement et à la fois aussi dans les milieux militants. Hein, simplement les militantes et militants queer et matérialistes, bon, sont des gens qui, en grande partie en tout cas, se côtoient, que se coordonnent souvent dans les actions militantes, voire dans les collectifs. C'est la première chose. Et deuxièmement, au niveau théorique, il y a tout de même pas mal de tentatives qui existent de rendre compatible, du moins en partie, le féminisme matérialiste, et le féminisme trans. Par exemple, en langue française, c'est notamment le cas avec les travaux de Sophie Noyer, hein, dont vous trouvez un article sur Contretemps sur le sujet, ou les travaux d'Audrey Benoît, qui a récemment publié sa thèse sur le sujet. Alors, est-ce que ces tentatives de compatibilisation entre queer et matérialisme sont fructueuses? Je ne me prononcerai pas là-dessus, mais il faut savoir qu'elles existent et ne pas se représenter queer et matérialisme comme deux camps absolument irréconciliables et sans circulation les uns avec les autres.
Oui, bah c'est une bonne conclusion de cette émission. Donc, on vous remercie, Pauline, Constance et Sophia,
du Merci coup, à vous.
De nous avoir parlé de transféminisme matérialiste. Et on invite donc à vous lire également dans un livre à paraître au printemps 2021, donc Matérialisme trans. Aux éditions Hystérique et Associés.
L'émancipation des femmes, ce n'est pas négociable. Le rapport entre les sexes est une construction sociale. Je ne suis la poupée de personne, je me fous de mon charme. Condition sine qua non, ne me libère pas, je m'en charge. Féministe radical, je te parle avec une arme. Je dépose une bombe dans la machine patriarcale.
L'idéal de la femme blanche. Séduisante mais pas pute, travaillant mais sans trop réussir pour pas écraser son homme, mince mais pas névrosée par la nourriture, restant indéfiniment jeune sans se faire défigurer par les chirurgiens de l'esthétique, bonne maîtresse de maison mais pas boniche traditionnelle, cultivée mais moins qu'un homme, cette femme blanche, heureuse, celle à qui on devrait faire l'effort de ressembler, je crois bien qu'elle n'existe pas.
Les luttes sont indissociables. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas choisir un jour d'être une femme, le lendemain d'être noire. Tous les enjeux sont interdéterminés. Patriarcat, patrie, patriarcat, patrie.